À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Riyad Satouf. Et je fais des livres de bande dessinée, enfin je suis auteur de bande dessinée.
Quatrième épisode, représenter la comédie humaine. Bonsoir Riyad Satouf.
Bonsoir Caroline Brouet.
Alors déjà, il faut dire à nos auditeurs et nos auditrices que nous sommes passés de chez vous à un lieu, alors je dirais pas plus professionnel, parce que vous travaillez quand même chez vous, vous avez votre bureau, mais là, c'est les locaux de votre maison d'édition. On est donc entouré de bibliothèques où sont quelques-uns de vos livres, on va dire, hein. On en voit quelques-unes de vos bandes dessinées. Ça tombe bien parce qu'on va parler de votre œuvre. On va parler de votre œuvre, c'est-à-dire des thèmes que vous développez dans votre travail, et puis de la fabrique des dessins, évidemment, dans un deuxième temps. Déjà, pour commencer, on peut commencer par votre acuité du regard, parce que les observateurs et les commentateurs ont déjà noté, c'est-à-dire l'observation de la vie réelle, votre sens aigu de l'observation, si bien que quelques personnalités, je pense à Leïla Slimani ou à Noémie Lvovsky, ont vu du Balzac dans votre œuvre. Est-ce que vous êtes lecteur de Balzac, Riyad Satouf ?
Alors, je serais pas un grand lecteur de Balzac dans le sens où j'ai pas lu des dizaines de livres de Balzac, mais j'en ai lu quelques-uns. Alors, c'est vrai que ça me fait très très plaisir quand on me dit des choses comme ça, mais je n'ai pas l'impression de, enfin, c'est pas du tout référencé. J'y pense pas du tout quand je fais mes bandes dessinées. Voilà, j'ai pas lu les grands classiques de la littérature française, etc. J'ai fait mon petit parcours moi-même dans les livres. Ça me plaît beaucoup quand on dit des choses comme ça, justement. Il y a quelque temps, j'étais à une émission avec des écrivains, et alors ils parlaient extrêmement sérieusement d'analyse de la littérature, et je me disais, en fait, dans mon forateur, je me disais, mais c'est quand même incroyable que je sois là avec eux en train d'écouter ce qu'ils sont en train de dire. Je serais incapable d'avoir cette vision analytique des choses, etc. Enfin, c'est assez marrant d'entendre, justement, des choses comme ça.
De fait, il y a de la comédie humaine dans votre travail. Peut-être aussi peut-on la voir comme une sociologie de la vie quotidienne. On prend un exemple. La vie secrète des jeunes, qui a été publiée dans Charlie Hebdo à partir de 2004, puis réunie dans des albums. C'est des choses que vous avez entendues, vues un peu partout où vous vous baladez, comme si il y avait vos oreilles qui traînaient et vos yeux également. Est-ce que sociologie de la vie quotidienne, ça vous parle ?
Ce qui m'a poussé à faire une bande dessinée comme La vie secrète des jeunes, qui était en effet la description de choses de ces nettes que je voyais dans la rue, c'était que j'avais la sensation que toutes ces choses que je voyais, tous ces gens que je pouvais croiser dans la rue, toutes ces discussions que je pouvais entendre, me semblaient pas représentées ou rapportées dans le monde littéraire ou dans les bandes dessinées en général que je lisais. Je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de raconter ça parce que je vois des trucs et personne n'en parle, en fait. Et je trouvais que dans ces scènes, il y avait des thèmes importants de la société qui étaient peut-être pas forcément conscients. Enfin, je sais pas s'ils étaient pas conscients à l'époque, mais j'avais l'impression de voir des choses qui n'intéressaient pas forcément les gens ou qu'on voulait pas voir. Par exemple, moi, je me rappelle, il y a quelque chose qui me marquait énormément, c'était le sexisme, par exemple, vis-à-vis des femmes dans la rue. Ça a été un des thèmes centrales de la vie secrète des jeunes. Je voyais tout le temps des hommes, agresser des femmes, enfin, agresser même d'un point de vue verbal, enfin pas forcément physique, mais vous voyez des scènes de violence quotidienne, en fait, tout le temps dans mon trajet, parce que je partais donc de chez moi à l'époque, j'habitais vers Place de la République, et puis j'allais rue d'Avron, je prenais la ligne 9, qui était une ligne tout à fait classique du métro, et je voyais tout le temps des scènes incroyables, enfin que je trouvais personnellement incroyables, et donc voilà, j'ai voulu me faire le témoin de ce que je voyais en me disant, mais il faut que je le raconte, parce que si je le raconte pas, personne le fait, et ça n'aura jamais existé. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire cette bande dessinée, dans le sens où je trouvais ça très triste, en fait. Je trouvais que la société, la vision de la société que je pouvais donner, ou que je pouvais avoir moi en la retranscrivant, était très sombre et j'avais envie de changer d'air, en fait, quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre le métro et je me suis mis à faire du vélo. Et c'est le moment où j'ai commencé les cahiers d'Esther, où j'ai donné la parole à une jeune fille, justement en me disant, je vais la laisser raconter des trucs sur sa vie de jeune, sur sa génération, comme ça je vais prendre des vacances avec moi-même.
Et cela dit, finissons sur la vie secrète des jeunes, et ce que vous disiez sur la violence que vous avez constatée dans la rue, c'est quand même une constante dans votre travail, la violence dans la rue. Celle que vous avez, vous, subie quand vous étiez enfant ou adolescent dans la rue, en sortant de l'école ou dans les rues des villes, que ce soit en France ou en Syrie. Et puis, effectivement, ce que vous croquez ensuite, c'est quelque chose qui revient très souvent dans votre travail, cette espèce de brutalité, des bandes de mecs notamment.
Oui, bien sûr, oui, mais c'est vrai que ça, j'avoue que j'ai une sorte d'obsession avec ça, j'essaie d'y trouver un sens, de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que c'est comme ça partout sur Terre. Je trouve que ça dit des choses de l'être humain. Et la violence, je trouve que c'est c'est ce qui nous reste de la nature, enfin de l'animal. Je sais pas, le monde animal est d'une violence incroyable. Évidemment, on vénère la nature, etc. Mais quand on y pense, c'est incroyablement, c'est incroyablement dur et cruel. Il n'y a pas de place pour les faibles, il n'y a pas de place pour la maladie, il n'y a pas de place pour la blessure, il n'y a pas de place pour l'être humain. C'est la seule espèce qui s'occupe des plus faibles. On sent que c'est quelque chose de très fragile. Je sais pas, il y a quelque temps, moi, j'étais à Strasbourg et j'ai fait une rencontre dans une librairie et pour y aller, j'ai pris le tramway. Je me suis retrouvé dans un tramway qui était très beau, etc. Alors c'était à Strasbourg, c'était le moment de Noël. Donc il y avait un wagon et puis là dans le wagon, il y avait une espèce de bande de mecs qui se bagarraient à moitié, qui écoutaient de la musique hyper fort. Ils étaient tous, ils parlaient ultra fort, ils bousculaient les gens. Et en fait, 100% des gens qui étaient autour de moi dans ce tramway faisaient comme si ils n'existaient pas et qu'ils étaient pas là. Pourquoi c'est comme ça? Moi, je sais pas, je suis obligé d'y réfléchir. Je trouve ça très étrange, quoi. Et cette permanence de la violence dans l'espace commun, qui est une violence sociale, une violence économique, une violence... j'essaie de la montrer pour essayer de la comprendre, voilà, je sais pas. Voilà.
Une violence économique aussi, qui transparaît dans certains de vos albums. Et puis peut-être qu'un autre mot qu'on pourrait utiliser que violence, c'est domination. Domination des forts sur les faibles, domination des adultes sur les enfants, domination des hommes sur les femmes, domination des riches sur les pauvres. Enfin, on peut continuer longtemps comme ça. Peut-être des occidentaux sur les arabes.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a, en même temps, c'est pas intellectualisé vraiment. Je sais que je répète souvent ça, mais je m'assois pas à mon bureau en me disant, tiens, je vais faire un truc sur la domination ou les classes sociales ou les transclasses ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs, ça ne se passe absolument jamais comme ça, en fait. Et je sais qu'il y a je pars d'une expérience, d'un fait, d'une observation. J'essaie de le raconter et de voir ce que ça peut vouloir dire. Voilà. J'essaie pas d'orienter idéologiquement mes bandes dessinées à la base, au départ. Au contraire, c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'éviter parce que la vie moi, la façon dont je fais mes livres, je les vois pas comme des livres à but idéologique. Alors, au final, forcément, ils sont politiques, parce que tout est politique, mais je veux essayer vraiment d'éviter ça, de faire des livres orientés avec un... Voilà, ça, c'est quelque chose que... Parce que j'aime pas ça en tant que lecteur ou spectateur, et je pense que ça ne représente pas bien la vie non plus. Moi, j'ai envie de décrire le réel dans sa complexité telle que je le vois, et c'est important pour moi de parler, en effet, de l'éducation, et de montrer ce que je vois de l'éducation. Voilà, la façon dont des parents vont parler à des enfants... La façon dont un enfant va regarder des adultes et être ignoré, ou c'est des choses qui me marquent et qui me touchent quand je les vois dans la rue et quand je peux les voir autour de moi, qui peut-être sont pas remarquées par tout le monde, mais moi j'aime bien témoigner de ça dans mes bandes dessinées pour attirer l'attention des gens là-dessus. Je sais que avec l'Arabe du futur, c'était important pour moi de rappeler qu'on est la somme d'une éducation et que on ne vient pas d'individu à cause de nos origines ethniques ou de nos origines culturelles ou de notre notre niveau social. En fait, il y a des gens très pauvres qui sont pas forcément qui deviennent pas ultra violents parce que voilà, c'est l'amour et la douceur, la violence, comment on la gère, qui crée les individus. Les gens qui sont pas désirés, s'ils naissent dans des milieux très privilégiés, ils deviennent horribles aussi. Je sais pas comment. Voilà, j'aime bien rappeler la permanence l'importance de la psychologie et de la... Voilà, tous les êtres humains sont faits pareil, qu'on a tous un inconscient, on a tous des désirs, tous les enfants ont envie d'être aimés par leurs parents, d'être valorisés, voilà, c'est un truc que j'aime bien illustrer dans mes bandes dessinées, je crois.
Oui, de fait, et puis à partir de 2003, vous avez fait plusieurs livres sur les jeunes. Donc il y a l'éducation parent-enfant, mais puis il y a aussi toute la jeunesse. Alors les pauvres aventures de Jérémy, retour au collège, les cahiers d'Esther, évidemment l'Arabe du futur également, le jeune acteur... Les beaux gosses, pourquoi êtes-vous si obsédé par la jeunesse au-delà des relations entre parents et enfants? Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? C'est passionnant d'observer les jeunes?
Alors, il y a toujours cette notion aussi de temps qui passe et de... comment dire, la vie humaine, elle a une sorte de... Voilà, elle a une durée extrêmement limitée et on se rend compte que plus on vieillit, plus on a l'impression qu'on voit quand même des choses se repasser assez régulièrement. Il y a des nouvelles générations de jeunes. Chaque nouvelle génération de jeunes fait peur à la génération d'adultes qui vit avec eux. Et il y a quand même quelque chose d'intéressant de ce que ça dit du futur. Voilà, je sais que ce que j'aime bien dans l'adolescence aussi, c'est que c'est un moment très très court qui semble infini quand on est dedans, mais qui est en fait très très court, et c'est le moment où on se transforme. C'est peut-être le seul vrai moment magique de la vie. C'est pour ça que les ados aiment tellement aussi les romans sur les vampires, sur les loups-garous, sur les transformations, parce qu'en quelques mois, notre corps change, on hérite d'attributs adultes, je sais pas, alors qu'on, dans notre tête, on peut avoir 6 ans d'âge mental, je sais pas, c'est pas, la nature a sa, le développement biologique a une logique qui n'est pas forcément celle qui se passe aussi dans la tête. Et c'est un moment important parce que ce que j'aime bien observer chez les jeunes, c'est d'essayer de deviner ce que sera le futur aussi. Comment on transmet des valeurs ou comment on les transmet pas, comment les sociétés se reproduisent sans fin. Par exemple, je sais pas, moi, dans ma génération, on considérait beaucoup moins la souffrance animale que les jeunes générations aujourd'hui, par exemple. C'est intéressant de voir comment ça naît, qu'est-ce que ça va donner plus tard comme génération adulte. Est-ce que les enfants de cette génération-là vont pas prendre un contre-pied complet, en fait. Chaque génération est un petit peu l'inverse de la génération d'avant. Et c'est observer les jeunes, c'est quelque chose qui, humainement, moi, en tant qu'individu, me passionne. Je me dis, qu'est-ce que les nouvelles générations vont apporter, vont changer, etc. Qu'est-ce que ça va? Voilà, c'est plus un truc personnel, d'observation personnelle.
C'est imaginer le futur, mais en observant le réel et le présent. C'est ce qui est très frappant dans les Cahiers d'Esther, qui est plusieurs albums, hein, mais qui ont été initialement publiés dans l'Obs chaque semaine. On y suit une Esther de ses 10 ans à ses 18 ans. Au moment où nous enregistrons ces émissions, Riyad Satouf, il ne reste 2 albums, si je ne m'abuse, d'Esther. Esther est une véritable jeune fille, enfin, enfant, quand vous avez commencé, puis adolescente, dont vous vous inspirez. Donc là, c'est une histoire qui part vraiment du réel, observé et vécu, puisqu'elle vous raconte régulièrement des épisodes de sa vie.
Oui, c'était vraiment l'idée aussi, comme je le disais tout à l'heure, de m'oublier un peu et d'oublier ma façon de voir les choses en adoptant son parti pris. Alors c'est vrai que moi, j'ai la vision sur le réel d'un type un peu invisible, c'est-à-dire quand j'étais dans au collège et au lycée, je n'intéressais pas à grand monde. J'étais pas spécialement brillant, quoi que ce soit. J'étais pas du tout populaire. Donc forcément, après, en devenant un adulte, j'ai eu cette vision du mec qui a pas été populaire sur le réel. Et je trouvais ça marrant d'essayer d'adopter le point de vue d'une jeune fille qui, elle, pour le coup, plaisait aux autres, plaisait aux garçons, avait des copines, même avait été cruelle parfois avec le type que j'aurais pu être si j'avais été dans sa classe. Je trouvais ça marrant d'adopter son point de vue et puis d'essayer de me mettre à sa place, en fait. Voilà. Et donc, c'est vrai que les Cahiers d'Esther, ce sont des histoires que je transforme quand même beaucoup parce que je veux pas qu'on la reconnaisse.
Oui, vous faites attention à masquer des détails qui risqueraient de la dévoiler.
Et je suis pas d'ailleurs, même en tant qu'individu, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait, mais j'ai envie quand même de le raconter. Je me dis, tiens, mais voilà, ça fait partie du réel. Je sais que c'est une expérience qui m'avait vraiment marqué, mais qui est toute bête, mais un jour je m'étais retrouvé à marcher derrière une fille dans la rue. Et je l'ai jamais vue de face, cette jeune fille. Elle avait des longs cheveux, comme ça, elle avait une robe pas si courte que ça, puis elle avait des bottes. Et elle marchait devant moi. Vue de derrière, moi, en tant que, je pouvais dire qu'elle était assez jolie, mais je l'ai pas vue de face. Je marchais derrière, j'ai descendu toute une rue, 300, 400 mètres derrière elle. Et en fait, 100% des gens qui croisaient cette fille dans la rue, notaient sa présence dans l'espace public. C'est-à-dire, il y avait à la fois les hommes qui la regardaient. Alors, ils la regardaient parfois frontalement, en ayant un regard beaucoup trop insistant. Il y en avait d'autres qui essayaient de la regarder discrètement, mais c'était pas du tout discret. Ils envoyaient des petits coups de regard comme ça. Les femmes qui la croisaient, alors certaines la regardaient quand même, la dévisageaient parce qu'elles devaient se dire, ah, donc celle-là. Certaines la regardent, mais en même temps, voilà, le groupe humain qui la croisait, tous les humains qui étaient inconnus qui la croisaient, notaient qu'elle était dans l'espace. Je me suis dit, mais c'est hallucinant, ça doit être incroyable. De vivre dans une vie ou dans une existence où c'est comme ça. Parce que pour moi, en tant qu'individu, c'est absolument pas comme ça. Quand je passe dans la rue, personne me regarde, personne ne note ma présence. Alors bon, un petit peu plus maintenant, s'il y a des gens qui lisent mes BD, des fois ils viennent me saluer, mais c'est incomparable avec, et je me disais, mais quelle vision de l'existence et de la vie cette fille, par exemple, a, en fait. Et ça avait fait naître en moi, justement, l'idée de faire une bande dessinée avec, comme héroïne, une femme, justement, tout simplement. Parce que ça fait partie des événements qui ont donné naissance au cahier d'Esther. J'avais envie d'adopter un autre point de vue. Voilà.
Votre écriture est très visuelle. Qu'est-ce qui est premier ? Le texte ou l'image ?
Les deux arrivent en même temps. C'est vrai que j'écris les deux en même temps. Je fais le dessin et le texte. La bande dessinée, c'est vraiment c'est une sorte de langue. Par exemple, là, j'écris un scénario de film. Je l'écris en bande dessinée, en fait. J'imagine que deux pages, c'est une scène de 2 minutes. Et en fait, c'est ma façon d'écrire. C'est comme une langue. Enfin, c'est comme si j'écrivais en allemand, parce que ma langue maternelle serait l'allemand. Je dirais que ma langue maternelle, à moi, c'est la bande dessinée. Quelque part, j'écris beaucoup mieux en BD que je n'écris purement en texte. Voilà, je serais incapable d'écrire un roman, par exemple. Et j'ai besoin du dessin.
Vous pensez en images ?
Je pense en images, oui, c'est vrai.
Est-ce que vous pensez en couleur ou en noir et blanc ? Parce que vos premiers albums étaient en noir et blanc, vous êtes passé à la couleur, qu'est-ce qui a changé ?
Ben, je pense vraiment d'abord à ce que j'ai envie de raconter. Voilà, c'est vrai que c'est ce qui est le plus important. Parfois, je sais que... Mais en plus, ça a pris des années avant que ça devienne quelque chose de concret dans ma tête. Par exemple, les couleurs de l'Arabe du futur, je me suis imposé des contraintes très fortes. Moi, je sais que quand on est dessinateur, et surtout en France, on a une liberté absolue. On a une liberté d'expression totale qui est unique sur Terre, en fait. Il n'y a pas d'autre endroit où on est aussi libre de raconter ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, et trop de liberté. En tout cas, moi, je sais, pour moi, la possibilité de faire ce que je veux, c'est pas forcément là que je vais m'épanouir le mieux, donc je suis obligé de me restreindre moi-même. Et je sais que dans les cahiers d'Esther ou dans l'Arabe du futur, je me suis mis vraiment des contraintes très fortes. Voilà, je me suis interdit d'utiliser trop de couleurs. Je me suis dit, tu utilises tant telle couleur, machin. Pour chaque pays, une couleur. Comme c'est le nationalisme, c'est un des thèmes de la bande dessinée. Tu as le droit d'utiliser les couleurs des drapeaux et ces couleurs des drapeaux peuvent faire partie du vocabulaire graphique de ce qui se passe dans l'album. Et voilà, je sais que je mets tout le temps des contraintes comme ça. Quand j'ai fait Le Jeune Acteur avec Vincent Lacoste, c'était pareil. Je me suis dit, je vais faire deux univers colorés. Le mien qui va être dans les bleus très sombres parce que c'est les abysses, les profondeurs, etc. Et celui de Vincent, parce qu'il est acteur et que lui, pour le coup, c'est la gloire de la célébrité ou la recherche de la célébrité. Il y a quelque chose de très lumineux. Et entre les profondeurs de l'océan et la lumière des sommets, il y a un truc un peu transcendantal. On passe du fond jusqu'au sommet. Et ça, je pense que pour le lecteur, même s'il ne se rend pas forcément compte de ça, eh ben, il le ressent quand même en le lisant inconsciemment.
Voilà. Oui, mais vous dites justement, pour le lecteur, Riyad Satouf, est-ce que c'est pas parce que vous faites aussi très attention à la clarté? On parlait de pédagogie dans une des émissions précédentes. Est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez un souci pédagogique qu'on puisse lire vos œuvres, en tous les cas aujourd'hui, telles que vous les abordez?
Oui, c'est vrai. Mais alors aussi, ça tient, je pense, au fait que, comme je le disais, j'ai eu une première partie la première partie de mes livres était c'était une sorte d'explosion dans tous les sens. Je me souciais pas tellement du lecteur ou de le ménager, pas de le ménager, mais je le mettais dans une sorte de montagne russe et je lui faisais voir ça m'amusait, quoi, justement de choquer, d'être d'horrifier des gens. Il y avait quelque chose de jouissif, peut-être. Je suis revenu à finalement quelque chose que j'assumais pas quand j'ai commencé à faire des livres, qui était, je pense, tout simplement le truc de base qui est de l'envie d'être aimé, en fait. c'est un peu idiot, mais c'est pas idiot du tout, mais au contraire, mais je crois que le fait d'assumer d'être aimé est quelque chose de... Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Je suis très heureux aujourd'hui et pour être aimé, il faut être bien compris. Voilà. J'ai bien compris que je serais pas aimé pour ma musculature puissante et je serais pas aimé pour mon intelligence extrêmement puissante de sociologue analyste. Mais je peux être aimé pour mes livres, par exemple, essayer de transmettre ma vision, des choses comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai compris assez tard, en fait. Et je vénère vraiment, j'adore mes lecteurs. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais quand Je fais beaucoup de rencontres en librairie, etc. Et c'est vraiment des gens incroyables. Déjà, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent de livres en France. Je rencontre des centaines de lecteurs. J'ai l'impression d'avoir une vision quand même très concrète d'une sorte de population française de toutes les classes, qui sont de toutes les origines, etc., mais qui ont tous en commun le fait de lire des livres. Ils adorent. Ça m'apaise énormément. Ouais, je sais. Parce que c'est une catégorie de... Je pense que c'est quand même énormément de gens dont on parle assez peu. Voilà. Je sais que quand on allume les chaînes d'infos, par exemple, même moi, je les regarde, hein, j'avoue, en buvant mon café le matin, je tombe sur BFM TV, CNews, etc. Et on a une vision de la société qui, je pense, c'est représentatif peut-être de quelque chose, mais enfin, je suis content d'avoir accès à cette vision de la société que j'ai par mes lecteurs. Je sais pas comment dire. C'est des gens très intelligents.
Et puis, il faut quand même, justement, leur donner envie de continuer à lire. Donc, dans l'album, et puis peut-être quand vous faites des séries, d'un album à l'autre. Comment on fait ça? C'est une construction.
En essayant de faire les meilleurs livres possibles, voilà.
Oui, mais au-delà de ça.
Bah, franchement, moi, je vais pas au-delà de ça. Je me dis à chaque fois, c'est ce qui fait que mon stress augmente d'album en album. Quand j'ai commencé à faire des rencontres en librairie, je vois une jeune fille qui arrive, elle est incroyablement impressionnante, une espèce de grande blonde, comme ça, avec des dents extrêmement blanches, etc. Puis elle me dit, alors souvent je demande aux gens ce qu'ils font dans la vie, parce que je suis curieux de savoir qui sont les gens qui lisent mes livres, en fait. Et elle me dit, je suis interne en médecine. Puis elle me dit, mais c'est incroyable parce que vos livres, ils me suivent. Qu'est-ce qui m'ont marqué quand j'étais enfant, etc. En fait, j'ai une sorte de vertige qui se passe en moi parce que après je fais le calcul dans ma tête et je me dis, mais alors attends, elle est interne en médecine, c'est-à-dire qu'elle doit avoir 25 ans, donc ça fait 15 ans que tu fais des BD. Donc quand elle a commencé à lire, elle avait 10 ans. Je me rappelle très très bien de quand elle a commencé à lire. Il y a 15 ans, c'était en 2008. Je faisais vaguement les beaux gosses et je me rends compte de quelque chose que j'ai pas du tout conscience, auquel je ne pense jamais. Qui est qu'en effet, à partir du moment où on a des lecteurs qui lisent nos livres, il y a une sorte de... Ils grandissent avec nos livres. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en librairie et qui pleurent parce qu'ils ont l'impression que l'Arabe du futur est terminée. Ça les a accompagnés toute leur enfance. Je me dis, mais oui, ça fait 8 ans. En fait, quelqu'un qui a commencé à lire à 10 ans, il a 18 ans maintenant. Et ça marque un... Enfin, je sais pas, moi, ça me fait un drôle d'effet. Je sens que ces livres ont une importance dans la vie des gens et je suis obligé d'en tenir compte. Voilà. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de faire n'importe quoi. Donc ça fait augmenter mon stress et je me dis, il faut que je leur fasse des livres qui vont continuer à aimer lire. J'ai besoin de respecter leur amour, en fait. Je sais pas comment. C'est comme dans un vieux couple, on vieillit et puis on se délite lentement. On se délite et il faut lutter contre le délitement. Je sais pas, en effet, on se met à faire du sport, on se met à faire attention de moins boire. En fait, voilà, quand on est jeune, il y a quelque chose de l'ordre du rapport amoureux avec mes lecteurs. Voilà, j'y pense de plus en plus, en fait. Voilà, j'ai envie de faire des livres, de les soigner le plus possible. Ça me rend malade quand ils découvrent qu'il y a une faute ou des trucs comme ça. Voilà, je sais pas. Je trouve que c'est important que mes livres, je le vois comme ça. C'est des trucs dans les familles. Il y a des enfants qui les lisent, les grands-parents sont contents de les aimer, de les échanger avec leurs enfants, etc. Et c'est pas quelque chose que j'avais mentalisé ou imaginé quand je faisais ces livres.
J'ai une dernière question sur l'humour, sur votre humour, sur ce qui fait rire dans vos bandes dessinées ou vos romans graphiques, hein, parce qu'il y a aussi des romans graphiques dans ce que vous faites. Sur quoi repose l'humour ? Sur les textes ? Sur l'expressivité des dessins ? Comment travaillez-vous cet humour ? Je pense aussi aux accents, les accents de Bébête notamment, hein, cette... voisine, vieille voisine de votre grand-mère en Bretagne, ou l'accent de votre père, ou l'accent des ados, enfin.
Disons que je réfléchis dans les histoires en termes de personnages, voilà. Et donc je me dis, bah, si tel personnage, il parle comme ça, bah, je vais essayer de retranscrire sa façon de parler. Donc ça peut aller du jeune, de la racaille, de la jeune racaille dans la rue à un banquier. J'aime bien la façon dont le langage évoque tout de suite un univers économique, social ou une classe ou je sais pas. Voilà, c'est vrai que je m'interdis rien de ce point de vue-là. Je pense que l'humour est quand même... on peut pas faire rire tout le monde, ça c'est vrai. Il y a des gens qui riront jamais de certaines blagues. Puis il y a des gens qui... Voilà, on voit bien que c'est compliqué. Ouais, je sais pas, je saurais pas l'analyser. Vraiment, je réfléchis par personnage. Voilà.
Alors prenons un personnage. Par exemple, hein, qu'on n'a pas encore beaucoup cité, Pascal Bruckdahl.
Bon,
Ouais, d'accord. Bah, Pascal Bruitat, c'est un mec. Alors, ça va pas être directement une racaille, parce que justement, Pascal Bruitat, c'était un personnage que j'ai inventé dans les années 2000, 2003, et qui est inspiré d'un libraire de bande dessinée qui. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais je peux vous la refaire si vous voulez. Un jour, c'était au début où j'étais en atelier avec des copains dessinateurs. Je commençais tout juste à faire des BD, et donc j'avais très très peu de lecteurs. Et un jour, j'occupais une toute petite pièce dans cet atelier. Et un jour, ma porte s'ouvre, la personne ne frappe pas du tout. La porte s'ouvre vraiment d'un coup comme ça. Et je vois un petit mec extrêmement sec et avec, vous savez, les physiques un peu... certains hommes, ils ont des physiques un peu proches de... Un tout petit mec comme ça, avec une nuque un peu plate et des sternocleidomastoïdiens un petit peu tendus comme ça, et des lunettes Ray-Ban avec des cheveux assez courts. Un petit bouc comme ça. Et il rentre avec un petit collier de bois de surfeur un petit peu. Un mec assez ingrat physiquement, mais dont on sentait qu'il était quand même viril et qu'il devait plaire le gars qui aime le rugby, quoi. Je sais pas quand. Il rentre comme ça, c'était un libraire de BD. Et puis il regarde autour de lui comme ça, puis il me voit. Et puis il s'appuie sur mon bureau et puis il me dit alors Toutouf, on continue ces petites BD? Et donc je lui dis ah ouais, c'est cool. Et puis oh, bah c'est bien, bah continue. Puis il se redresse comme ça, il regarde autour de lui et il sort. Et en fait, pour moi, je me suis dit, c'était vraiment comme un, vous savez, dans les singes, dans les groupes de singes, il y en a un qui vient, il impose sa domination sur le dernier singe de la meute en disant bah je te tue pas, je te tolère, d'accord? Bon, c'est bien, tu continues, tout à l'heure, c'est bien, puis il s'en va. Et je me suis dit, putain, mais ce serait un super personnage, comme ça, un type... En plus, le fait qu'il y avait ce décalage entre son comportement dominateur et son physique très moyen, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, très drôle et que j'avais souvent observé dans ma vie, en effet. C'était que souvent, les types qui sont considérés comme beaux ou séduisants par les filles m'ont toujours semblé très laid, moi, dans mon expérience personnelle. Je me disais, ce serait marrant d'imaginer une sorte de mâle dominant comme ça, qui soit au-delà des références de beauté et qui rende complètement fou les femmes et les hommes, etc. Et c'est comme ça que j'ai créé Pascal Bruitat, et qui est un personnage dont j'ai fait 4 albums et qui vivait dans un futur proche en France. Et à un moment, j'ai arrêté de faire ces aventures parce que le réel a dépassé la fiction, en fait. J'ai commencé à le faire à une époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas les smartphones. Et aujourd'hui, la plupart de ce que je vois dans le monde réel est pire que ce que j'aurais pu imaginer dans Pascal Bruitat.
On va s'arrêter là pour ce soir, Yael Satouf, et on termine en annonçant une nouvelle aventure de demain, celle qui a trait au cinéma, au film, à l'aventure des beaux gosses, de Jackie et puis du jeune acteur Vincent Lacoste. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphne Abgral, prise de son Benjamin Perru, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.